Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Jean-Désiré Kanyama pour le journal.
D'abord, ce chiffre alarmant, plus de 50 820 cas suspects de rougeole signalés dans les provinces du Nord et du Sud Kivu entre janvier et juillet 2026. Médecins sans frontières évoque également plus de 108 643 cas suspects de rougeole et 1394 décès au cours de la même période. Prochaines assises du dialogue national inclusif, l'opposant Martin Fayulu insiste et persiste. Pas de dialogue sans Joseph Kabila et Corneille Nanga pour leur rôle important de dirigeants au pays. Réaction du président du parti SID depuis le week-end à Paris, en France. La loi organisant les référendums en RDC a été renvoyée au Parlement à la demande du président de la République. Le texte n'est pas encore promulgué, mais il n'a toujours pas fini de voyager entre les institutions de la République. Nous suivrons à la fin de ce journal les réactions des intervenants dans l'émission « Dialogue entre Congolais d'Irlande ». Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous commençons avec ces chiffres. Plus de 50 820 cas suspects de rougeole signalés dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et cela entre janvier et juillet 2026, selon les données officielles citées par Médecins sans frontières. Et à l'échelle nationale, la RDC a enregistré plus de 108 000 cas, 643 suspects de rougeole et 1394 décès au cours de la même période, d'après toujours Médecins sans frontières. Notez encore que près de la moitié de ces cas étaient concentrés dans les deux provinces du Kivu. Des détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cette situation sanitaire intervient alors que l'Est de la RDC fait face à l'épidémie des maladies à virus Ebola. Pour Médecins sans frontières, la mobilisation importante autour de cette épidémie ne doit toutefois pas entraîner une diminution de l'attention et des moyens consacrés aux autres urgences sanitaires, notamment la rougeole, les choléras et le paludisme. Dans le cadre de sa réponse à la rougeole, Médecins sans frontières indique avoir réalisé 6 interventions dans le Nord et le Sud Kivu. Les plus récentes ont été menées à Walikale, au Nord Kivu et à Chabunda dans les sites Kivu. Selon cette organisation, ces interventions ont permis de traiter plus de 12 050 patients et de vacciner plus de 283 000 enfants. La rougeole n'est pas la seule maladie qui continue de menacer les populations dans les deux Kivu. Selon les données citées par MSF, la RDC avait enregistré plus de 35 464 cas suspects de choléra et plus de 1051 décès. Parmi ces notifications, 14 819 étaient concentrés au Nord Kivu et au Sud Kivu. Médecins sans frontières estiment par ailleurs que ces différentes urgences sanitaires doivent continuer à faire l'objet d'une réponse simultanée.
Et bonne nouvelle tout de même, en provenance de l'Ituri, les décès liés à Ebola sont en baisse dans certains sites de déplacés. C'est le cas de Kigonze à Bunia, où jusqu'à 8 morts étaient enregistrés quotidiennement au plus fort de l'épidémie. Aujourd'hui, le nombre de décès a sensiblement diminué. Les équipes de riposte attribuent cette amélioration à une adhésion de la population aux mesures de prévention. Mais certains défis persistent. Des détails avec Jean-Claude Lokidili.
Sur les sites de déplacés de Kigonze, à Bunia, le nombre de décès liés à Ebola est en baisse. Selon les responsables du site, qui accueille près de 17 000 personnes, 1 à 3 décès sont actuellement enregistrés par jour, contre jusqu'à 8 au plus fort de l'épidémie en juin et juillet. Cette amélioration est notamment attribuée au renforcement de la sensibilisation et au respect accru des mesures barrières. Auparavant, certaines familles touchaient les malades, favorisant ainsi la propagation de la maladie. Mais des défis persistent, notamment l'insuffisance d'eau pour des milliers de personnes vivant sur le site pour le lavage de mains. Dans la zone de santé de Nizi, cette fois, l'équipe nationale de riposte a affirmé avoir renforcé la surveillance et l'orientation des cas suspects vers les centres de traitement. Toutefois, certaines familles continuent à ignorer les mesures barrières pour éviter la contamination. À Nyakoundé, autre zone fortement touchée au début de l'épidémie, les cas positifs sont également en baisse. Le professeur Steve Aouka, coordonnateur terrain de la riposte, attribue cette évolution à une meilleure adhésion de la population aux mesures de prévention. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Et puis cette alerte au charbon bactérien ou anthrax à Vitchumbi dans le Nord Kivu, un micro-organisme qui engendre des symptômes suspects comme des lésions cutanées ou de la fièvre. À l'origine, un hippopotame retrouvé mort à Vitchumbi le 8 août dernier a été testé positif au charbon bactérien ou anthrax. L'alerte a été lancée par la zone de santé de Kibirigi. Cette situation provoque évidemment une inquiétude de la population car elle aurait consommé une partie de la viande avant l'intervention des services sanitaires. Le point avec Bernard Nyangi.
La zone de santé de Kibirizi appelle à une vigilance accrue après cette confirmation d'un cas d'anthrax sur l'hippopotame retrouvé mort à Vichumbi. Les autorités sanitaires recherchent les personnes ayant manipulé l'animal ou consommé sa viande. Elles demandent également de signaler rapidement tout symptôme suspect, notamment des lésions cutanées ou de la fièvre. L'anthrax est une maladie bactérienne qui touche principalement les herbivores, mais peut être transmise à l'être humain par contact avec un animal infecté ou par consommation de viande contaminée. Cette alerte intervient alors qu'une épidémie de la même maladie avait provoqué la mort de 65 hippopotames dans le parc national de Virunga en 2025, selon les sources du parc. Les autorités appellent les communautés riveraines du lac Édouard à respecter les mesures de prévention et à éviter tout contact avec les animaux retrouvés morts. Le dernier recensement réalisé en février 2026 fait état de plus de 2100 hippopotames dans cet habitat situé en partie sud du lac Édouard. Leur proximité avec les zones habitées impose donc une vigilance accrue des communautés riveraines, indiquent les sources sanitaires.
Politique à présent, dialogue inclusif en RDC. L'opposant Martin Fayulu insiste et persiste. Pas de dialogue sans Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Selon le président du parti SID et membre du plateforme C64, l'ancien président de la République et l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ont joué un rôle important de dirigeant au pays. Entre-temps, Kinshasa demeure catégorique dans son refus d'associer ces deux personnalités à ses futures assises. Les leaders de la coalition Lamouka s'est exprimé depuis Paris où ils séjournent depuis le week-end. Des propos sélectionnés par Lievin Mbwinga.
La participation de Joseph Kabila et de M. Nangaa. Ils sont partis de là. Kabila a dirigé ce pays. Le dites comme vous voulez. Et il a dirigé ce pays. Il est là. Ils ont dit que celui qui arme, celui qui finance le M23 à l'AFC. Il doit venir. Il doit venir pour dire pourquoi il le fait. Quel est le problème? Nangaa, il était président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est lui qui a proclamé Tshisekedi comme gagnant alors que Tshisekedi n'avait pas fait le train. Maintenant, il est là, il a pris des armes contre le pays. Il tue ou il fait tuer ses frères et sœurs, ses semblables qui ont le sang humain comme lui, qui sont les ressortissants du même pays que lui. Il faut qu'ils viennent, qu'ils disent pourquoi il a fait ça. Et puis comme on dit, les linges sales se lavent en famille. On se lave. Moi, il m'a fait du tort. Ils m'ont causé du tort. J'ai pardonné. Parce que, on dit, si un chrétien a deux valeurs, la première c'est l'amour et la deuxième c'est le pardon. On a pardonné.
En rapport toujours avec ses pourparlers à venir, le parti politique Rassemblement pour le développement intégral et fédéral mobilise les acteurs politiques en République démocratique du Congo. Il cherche à assurer la réussite du dialogue national à travers cette démarche. Son comité exécutif estime d'ailleurs que cette réunification constitue une réponse face au risque d'implosion du pays. Pour sa part, le secrétaire général de ce parti affirme qu'il est temps pour tous les Congolais de dialoguer enfin, de favoriser le retour de la paix et de la stabilité au Congo. Maître Michel Bissimwa Mouderoa s'exprime au micro de Ronelin Tibonera Idi Amin.
Le comité national du parti politique RADUF est en consultation avec d'autres partis politiques extra-parlementaires pour pouvoir mettre une coalition en place qui sera dénommée Bloc pour la réunification du Congo et la cohésion nationale. Et cette coalition se veut être une force politique pour dissuader afin que tous les acteurs en conflit à l'est du Congo puissent participer donc au dialogue qui s'annonce et qui a été annoncé par le président de la République via le cardinal Ambongo. Nous voulons que ceux qui sont l'aîné de problèmes congolais soient à la table de dialogue pour que nous puissions ramener la paix chez nous. Cette coalition se veut être une coalition uniquement pour la réunification du pays et la cohésion nationale. Parce que le pays est en implosion, les Congolais sont divisés, le pays est menacé par une balkanisation et nous ne pouvons pas croiser les bras en train de regarder notre pays donc se disloquer ou se balkaniser.
Autre sujet qui déferait la chronique dans la capitale, c'est la démolition des habitations. Le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique hausse les tons. Florimond Mouteba exige une planification urbaine de la ville avant toute destruction. Il s'est exprimé ainsi hier lundi à Kinshasa. Pour lui, cette opération de destruction doit d'ailleurs être suivie d'une indemnisation des victimes pour des raisons humanitaires. Suivez les PCA de l'ODEP, Florimond Mouteba.
Nous vivons dans un pays où les dirigeants n'ont ni idéologie, ni vision. Vous savez que nous avons fait 2 ans sans plan. Quelle est cette administration qui a donné des terrains à ces gens-là et qui ont construit des terrains qu'on est en train de détruire aujourd'hui? La planification urbaine de la ville de Kinshasa existe? Donc, on navigue à vue. Pour tout, hein, quelqu'un se réveille, prend une décision. Mais comment une ville de 20 millions d'habitants comme le Kinshasa peut vivre sans planification urbaine? Sans planification urbaine, on ne peut pas détruire ce qu'on avait planifié hier. Les gens ont construit ces maisons-là avec des petits moyens de bord. Ils économisaient, des petits commerces. Donc il y a quelque part une anarchie. Mais terrible. La gouvernance globale de la ville de Kinshasa et même du pays est catastrophique. Maintenant, on vient détruire les habitations, les maisons de ces gens-là. Mais est-ce qu'on a prévu de les indemniser? Est-ce qu'on a prévu de restituer à ces gens leur épargne acquise difficilement, hein? Et même les marchés, ils ont détruit.
Et contacter le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, a promis d'y réagir, mais ne donne toujours pas de suite à notre demande. Du côté de Kassindi, Loubiria, cette fois la société civile de cette contrée du Nord Kivu s'oppose farouchement à toute construction dans les parkings publics situés dans les quartiers Kongo-Yassika, à la limite du parc national de Virunga. Kassindi, Loubiria est une commune rurale du territoire de Beni, située à environ 90 km de la ville. Cette structure citoyenne affirme que les travaux auraient déjà commencé dans cet espace, alors qu'un différend foncé concernant cette zone fait encore l'objet de concertations entre les différentes parties, notamment avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN. C'est pourquoi la société civile demande l'arrêt immédiat des travaux en attendant l'issue des discussions. Paul Zaidi, rapporteur de la société civile de Kassindi-Loubiria, a été joint par Marc Marofimbo.
Nous ne parvenons pas à comprendre comment est-ce que c'est l'autorité municipale qui se permet d'aller lancer les travaux au sein du parking public localisé dans les quartiers Kongo-Yassika, où le gouvernement provincial a déjà donné l'interdiction de tous les travaux de construction en attendant l'issue favorable des discussions et des commissions mises en place par le gouvernement provincial. Donc nous estimons au niveau de la société civile qu'il s'agit vraiment de l'impunité et d'une politique de deux poids, deux mesures. Nous exigeons l'arrêt immédiat de ces travaux que le bourgmestre vient de lancer dans les quartiers Kongo-Yassika, principalement au sein du parking d'hiver. Kassindi nécessite vraiment des espaces pour les parkings publics. Voilà, ces espaces commencent à être spoliés, ces espaces commencent à être empiétés. C'est comme ça qu'on nous a trompé récemment que dans les parkings il y aura la construction des toilettes et aujourd'hui dans ces mêmes parkings il y a une maison en étage et considérée maintenant comme un hôtel au sein du parking public de l'État. Donc au niveau de la société civile, nous exigeons l'arrêt immédiat de ces travaux parce que nul n'est au-dessus de la loi.
Nos efforts pour joindre les bourgmestres de Kassindi-Loubiria sont restés vains. Selon nos sources, l'arrêté du gouverneur interdisant les constructions dans cette zone reste en vigueur. Et puis, cette bonne nouvelle du côté du Grand Kassai, le Bac Epamba ressuscité à Lomami après 23 ans de paralysie. Cette embarcation qui relie la province de Lomami à celle du Haut Lomami sous la rivière du même nom reprend enfin du service. Il a été inauguré le week-end par le gouverneur de la province de Lomami. Fini donc le calvaire des pirogues, des fortunes et des risques de chavirement pour les riverains. Les détails de cette remise en service avec Esther Ndalafina.
23 ans d'attente et enfin le bout du tunnel. Le bac Epamba vogue de nouveau sur la rivière Lomami après l'installation d'un nouveau câble et le remplacement de ses pièces défectueuses. Pour les habitants du village d'Epamba, situé à 120 km de Kabinda et ceux du village voisin de Pandakaliengiei dans le haut Lomami, la mise en service de cet ouvrage est une bouffée d'oxygène. Réunis en masse lors de la cérémonie d'inauguration, les riverains n'ont pas caché leur soulagement. Jusqu'ici, traverser la rivière relevait du parcours du combattant. Les agriculteurs et pêcheurs locaux devraient utiliser des pirogues artisanales au péril de leur vie. L'arrêt du trafic sur le bac constituait un frein majeur pour l'économie locale. Faute de moyens de transport adaptés, l'évacuation des récoltes de maïs, de manioc, d'arachides et de haricots ainsi que des produits de la pêche devenait quasi impossible. Grâce au rétablissement de cette traversée rendue possible avec l'appui d'un député national, les échanges commerciaux vont pouvoir reprendre à plein régime vers les grands centres de consommation comme Kabinda, Gandajika et Kabwe. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, la modification de l'article 37 de la Constitution a été adoptée hier lundi à l'Assemblée nationale à 133 voix sur 135 votants. Le texte porté par la majorité parlementaire PASTEF impose aux plus hautes autorités une seconde déclaration du patrimoine en fin de mandat, en plus de celle déjà prévue en début de mandat.
L'invité.
La loi organisant le référendum en RDC n'est pas encore promulguée et n'a toujours pas fini de voyager entre les institutions de la République. Le texte, déjà adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, puis validé par la Cour constitutionnelle, retourne une fois encore sur la table du Parlement à la demande du président de la République. Et à la base de cette nouvelle relecture du Parlement, les réserves formulées par la Haute Cour que le chef de l'État souhaite voir intégrées au texte pour en garantir la clarté et la sécurité juridique. Les intervenants à l'émission Dialogue entre Congolais ont réagi à cette actualité. Écoutons à présent Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa à Gombe, au micro de Dona Madimba.
Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa à Gombe, vous qui connaissez bien cette matière, vous souvenez-vous si pareil incident est déjà arrivé en République démocratique du Congo, une loi presque prête à être promulguée, mais qui est renvoyée au Parlement pour un autre travail, et puis une telle initiative, est-ce que c'est légal?
Merci beaucoup, Donna, pour votre préoccupation. Je salue d'abord le thème choisi pour cette soirée. Et je vous avoue que, au-delà de la légalité, la démarche est même constitutionnelle. Parce que la pertinente disposition de l'article 137 de la Constitution donne la possibilité au président de la République, une fois qu'il a reçu une loi aux fins de promulgation, de solliciter ou de retourner le texte lui soumis pour délibération, pour promulgation, à l'Assemblée nationale et au Sénat ou au Sénat pour une seconde délibération. Donc, lorsque vous parcourez les dispositions des articles 166 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 140 du Sénat, vous allez vous rendre compte que tout a été prévu en termes de possibilité de voir le président de la République solliciter une seconde délibération d'une loi qui devrait être déjà promulguée dès lors que le président de la République n'est pas une caisse d'enregistrement des lois qu'on lui envoie. Une fois les lois sont promulguées, le président de la République a un bureau, a un service juridique qui passe au peigne fin, a un conseiller en matière institutionnelle, a un conseiller en relation avec le Parlement, et toute cette équipe passe au peigne fin, n'est-ce pas? Le texte lui soumis, et aussi, il tient compte de plusieurs observations qui lui sont faites par différentes couches, par différentes entités, avant de promulguer un texte. Et si il y a concordance d'observations nécessitant qu'un texte soit réélu, réexaminé par les deux chambres, la Constitution lui reconnaît la possibilité de solliciter cette deuxième délibération qu'on appelle dans les habitudes une seconde lecture.
Alors, la Cour constitutionnelle, dans le cadre de l'examen à la conformité à la Constitution de cette loi régissant le référendum en RDC, avait jugé la loi conforme, mais avait émis 13 réserves. Le président de la République, en parlant de clarté et de sécurité judiciaire, à quoi fait-il allusion concernant les 13 réserves?
À suivre l'arrêt de la Cour constitutionnelle, vous allez vous rendre compte que cette haute institution constitutionnelle a eu à émettre des réserves. Les 13 dont vous parlez tout à l'heure, que nous avons encore épinglé lors d'une intervention à laquelle j'étais encore associé dans une émission encore de dialogue entre Congolais. Et vous allez vous rendre compte que lorsque les textes de la loi telle que passée à l'examen par la Cour constitutionnelle, les réserves émises par la Cour constitutionnelle, ce sont des observations liées à l'ambiguïté de certains articles, liées à l'absence de clarté de certains libellés, liées parfois à plusieurs obscurités qui devaient nécessiter une certaine clarté.
Alors, Willy Wenga, la majorité des gens qui nous écoutent ne sont pas des experts de la loi. Pour simplifier un peu, est-ce que vous pouvez nous dire une idée, un chronogramme après lequel cette loi, si convenablement, elle pourrait être prête pour promulgation?
Non, que ce soit la Constitution, que ce soit le règlement, aucun des textes n'a donné à l'Assemblée nationale un délai en dehors lequel l'Assemblée nationale doit faire cette seconde lecture.
Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, était au micro de Donna Madimba. Il intervenait dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. Fin de ce journal. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.